Voilà. Donc, je vous propose pour ce matin une lecture, merci Matthieu, une lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 31 à 40. Et on mettra après peut-être, je vais vous faire deviner mon sujet. Par cette lecture, hein, ça sera peut-être... merci d'attendre. Donc, dans Jean, chapitre 5, versets 31 à 40, c'est donc le Seigneur Jésus qui parle et il doit souvent justifier sa mission auprès de son peuple, en particulier par les autorités religieuses qui sont dérangés par cet homme qui est complètement différent des autres. Donc, Jean 5, 31 à 40, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Alors, je vous pose la question. De quoi vais-je vous parler ce matin ? Témoignage, voilà, c'est pas difficile. Hein. En effet, 10 fois, merci, 10 fois j'ai relevé cette expression, des témoignages rendus à Jésus-Christ. Et en réfléchissant et en étudiant dans toute la Bible, et surtout le Nouveau Testament, on voit qu'il y a 8 témoignages rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pharisiens se faisaient fort quand justement ce prophète, Jésus de Nazareth, une ville d'où en principe il ne sort pas de prophète, eh bien les pharisiens se demandaient d'où venait ce qu'il disait. Dans Jean 8, 13, il nous est aussi dit, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Alors, il y a 8 témoignages principaux rendus à Jésus-Christ. Donc, vous les avez ici, sous vos yeux, et je vais passer rapidement sur certains, parce qu'on n'a pas le temps, on pourrait faire une grande étude biblique, mais on n'a pas le temps. Donc je vais passer plus vite sur ceux du milieu, on va dire, et puis sur le premier et les 2 derniers, on va s'arrêter un petit peu plus. Donc le premier témoignage, c'est les Écritures. Dans Jean 5, 39, on vient de le lire, et 40, Jésus essaye de faire prendre conscience à ses auditeurs leur contradiction. Ils ont un but qui est louable, n'est-ce pas ? Chercher à avoir la vie éternelle, mais c'est bien, il n'y a rien de mieux même, je dirais. Qu'y a-t-il de plus important que ça, hein, je vous le demande. Il n'y a rien de plus important que ça. Et ils avaient raison. Simplement, ils n'avaient pas la bonne attitude. Et ils étaient bloqués sur la personne du Messie Jésus qui était devant eux. Ils ne pouvaient pas supporter que cet homme était différent des autres. Et ils étaient peut-être aussi jaloux, certainement, aussi de son ministère, et que toutes les gens étaient suspendus à ses lèvres et à ses actions. Et donc, ils trouvent quelque chose de paradoxal. Et encore aujourd'hui, hélas, il peut y avoir des théologiens, des gens très religieux. Ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir la vie, pour être bien devant Dieu, pour être méritant, on va dire. Et ils refusent d'aller à Jésus dans la repentance, et dans l'aveu de leurs péchés pour avoir la vie. Alors c'est vrai que ça demande de s'humilier. Et on voit donc dans les Écritures, je passe un peu plus vite, on voit donc de la Genèse à Malachie, si on prend les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, toute la révélation de l'Ancien Testament, on voit donc environ 70 prophéties qui se sont accomplies lors de la première venue de Jésus. Alors rien que ça, c'est impressionnant. Et si on prend la peine de les regarder, de les étudier, ça aurait dû commencer de les convaincre, ces gens qui étaient connaisseurs de ces Écritures. Et Jésus, tout au long de son ministère, on voit ça surtout dans l'évangile de Matthieu, il dit toujours « il est écrit, il est écrit hein, ». Quand vous lisez l'évangile, ça saute aux yeux. Et donc pour Jésus, l'autorité de la parole était très importante. Et Jésus ressuscité aussi sur le chemin d'Emmaüs, il attire l'attention de ses deux disciples, mais vous ne comprenez pas les Écritures. Et encore à la fin de Luc chapitre 24, vous avez tout un passage aussi qui montre qu'il était écrit dans toutes les trois sections de l'Ancien Testament, les prophètes, les psaumes et la Torah, le Pentateuque. Toutes ces Écritures parlent de lui et convergent vers lui. Et on voit aussi plus tard bien, les disciples qui témoignaient, comme Apollos par exemple, il témoignait aux Juifs à Éphèse, eh bien, il a dit qu'il établissait par les Écritures que Jésus était le Messie. Il prenait les Écritures, alors bien sûr c'était un témoignage particulier auprès du peuple juif, mais ça n'empêche pas que les Écritures pour nous, même si nous ne sommes pas forcément dans un contexte juif, dans le même contexte, eh bien les Écritures sont un livre de vie qui nous conduisent, qui conduisent les hommes à la foi. Hein. Dans Apocalypse 19 aussi, le but de la prophétie, il est dit, de la prophétie de ce livre, c'est rendre témoignage à Jésus-Christ. Donc, quand vous lisez l'Apocalypse selon Jean, c'est le témoignage de Jésus-Christ qui est, qui était et qui vient. Maintenant, je passe au ministère de Jean-Baptiste, qui lui aussi a été un témoin. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 15, il nous a dit ceci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il reconnaît devant tous que le Seigneur Jésus-Christ n'a aucune comparaison avec lui, avec aucun autre prophète, et ça va le conduire à aller jusqu'à baptiser Jésus sur sa propre demande. Et dans Jean 1, 29, on lit un peu plus loin, le lendemain, il vit venir Jésus à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc, Jean s'efface devant la révélation, l'immense révélation de Jésus-Christ, parce qu'il reconnaît que lui, il n'est simplement le messager qui marche devant le Seigneur, ou l'ami de l'époux, comme c'est dit plus loin, et il est resté jusqu'au bout fidèle à la vérité. Il n'a pas cherché à concurrencer Jésus, alors que des fois, les pharisiens ou d'autres lui disaient « Mais tu vois, tes disciples, ils vont tous, ils courent après lui maintenant. En gros, tu n'as rien gagné. » Mais il dit justement « Ma mission, c'est que lui grandisse et que moi, je diminue. » Et donc, Jean a été, on va dire, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, le plus grand qui ait jamais né de femme, a dit Jésus. N'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Donc, quelle belle attitude, et que ce soit aussi la nôtre, de se réjouir que le Seigneur grandisse, et même nous, si on doit diminuer, tant pis, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que lui grandisse. C'était vraiment l'ambition de Jean, le baptiseur. Ensuite, le témoignage des œuvres et des miracles. Dans Jean 5, 36, Jésus dit, ces œuvres-là même que je fais témoignent qu'il y a quelqu'un de plus grand avec moi. C'est le Père, son Père. Et Nicodème, justement, fait cette remarque quand il va de nuit trouver le Seigneur Jésus. Il dit, nul ne peut faire des œuvres telles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ce n'est pas possible. Il a reconnu que c'était de l'authentique. Ce n'était pas un faux prophète qui surgissait comme ça. Plus loin, l'aveugle né aussi, qui est guéri, va dire, on n'a jamais entendu, jamais vu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que Jésus donc a fait beaucoup de miracles. Et si on compare avec les prophètes de l'Ancienne Alliance, comme Élie qui a ressuscité une fois, c'est vrai, le fils d'une veuve, on voit aussi Élisée qui multiplie du pain pour cinq prophètes. Mais ce sont des signes ponctuels, particuliers, qui ont été donnés dans l'Ancienne Alliance, mais qui n'ont rien, n'ont aucune comparaison avec Jésus qui a multiplié le pain pour des milliers, pour des foules de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants. À deux reprises, en tout cas, il nous a attesté que ça a été fait dans l'Évangile. Et sans parler encore des démons qui ont été chassés, des nombreuses guérisons physiques, toutes ces choses qui accomplissaient les prophéties, donc du prophète Ésaïe en particulier. Et donc Jésus va dire, eh bien, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais ils ont vu. Et Jésus a fait des œuvres que nul autre n'a faites. Ça, il faut bien s'en persuader. Et à la fin de l'évangile de Jean, Jean termine son évangile, et c'est très intéressant, parce qu'il dit, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais le plus important n'est pas là. Il dit, ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Donc, mais ceci est écrit. Les miracles doivent conduire à ce qui est écrit, à la révélation fondamentale de Dieu. Et on aurait... voilà, c'est ça l'important. Mais quand même, Dieu a permis que ces miracles attirent l'attention de son peuple sur son Fils bien-aimé. Quatrièmement, le témoignage de Dieu, son Père, dans Jean 5, 37 aussi, il dit « Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi ». Donc le Père, en tout cas, on ne connaît peut-être pas tout, mais en tout cas, dans ce que la Bible nous dit, on voit que lors du baptême, le Père parle directement du ciel à ceux qui sont présents du baptême de son Fils en disant « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai pris tout mon plaisir ». Et puis plus loin encore, plus tard dans le ministère de Jésus, on va dire au milieu de son ministère un peu, sur la montagne de la Transfiguration, dans l'évangile de Matthieu chapitre 17, Dieu doit couper la parole à son disciple, Pierre, qui voulait faire plein de choses, et Dieu lui dit, leur dit à ces trois qui sont présents, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. » Et puis, avant la croix encore, il y a cette voix qui se fait entendre du ciel quand Jésus va parler de son sacrifice, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 28. Je passe plus loin au point suivant, le témoignage de l'eau et du sang. On va lire dans Jean 19, peut-être pour comprendre. Dans Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple a pris Jésus chez lui. Je lis encore les versets 33 à 36. C'est quand les soldats viennent pour, on va dire, achever les prisonniers. Arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, parce qu'il avait souffert beaucoup plus que les autres, ils ne lui brisèrent pas les jambes, parce qu'il est bien dit, « Aucun de ses os ne sera brisé. » Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi, que vous croyiez vous aussi. Donc, Jean a été un témoin d'un événement extraordinaire, unique dans l'histoire, inoubliable. Très peu d'hommes ont pu, mais lui, par le courage que Dieu lui a donné à ce moment-là, eh bien, il a pu réaliser que Jésus, l'homme Jésus était bel et bien mort, que son sacrifice parfait avait été accompli. Et cette eau et ce sang, eh bien, sont un témoignage de son humanité parfaite. Et donc, je vous ai mis cette photo que j'ai prise en Lozère lors de mes vacances en septembre. Et on voit dans certains villages la lance qui est rappelée par rapport à la croix. Et ça pourrait nous étonner, mais si on étudie la parole de Dieu, on voit que ça a toute son importance. En rappelant la croix, il y a eu la lance qui a percé les côtés de notre Seigneur pour accomplir aussi les Écritures et pour attester que son sang était donné et l'eau de son corps était répandue. Certains ont vu aussi, bien sûr, à travers l'eau, cette image de l'eau de la vie qui donne, qui jaillit jusqu'en vie éternelle dont Jésus a parlé dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Certains ont vu en Jésus aussi ce nouvel Adam de qui sa côte, son côté, a été percé. Et enfin, du côté d'Adam est venue la femme, a été créée la femme, et donc une image de Jésus aussi, ce nouvel Adam qui donne naissance à l'Église, l'Assemblée, l'épouse du Christ, qui est née du côté et de l'eau qui a coulé, et du sang qui a coulé du Seigneur, de son corps. Ensuite, le témoignage du Saint-Esprit. Quand et comment le Saint-Esprit a-t-il témoigné de Jésus? En particulier, bien sûr, à son baptême, puisque vous vous rappelez, il y a eu la colombe qui est descendue sur lui devant tous et qui a apporté le témoignage qu'il était bien le Messie, c'est-à-dire loin de l'Éternel. Il avait l'onction du Saint-Esprit pour être témoin de son Père. Donc, il est dit qu'il avait l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire il était... Bien sûr, puisque c'est le Fils éternel de Dieu, il avait l'Esprit dans la totalité, dans la plénitude, pour accomplir tout ce qu'il a accompli dans sa mission. Et cet Esprit l'a conduit directement à mourir sur cette croix et aussi à ressusciter, puisqu'il nous est dit dans Romains 1, un texte très important, c'est un verset très important, où Paul dit qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le témoignage du Saint-Esprit, jusque dans la résurrection, lui a été donné. Et celui qui ne croit pas à ce témoignage, nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean 5, 10, il traite Dieu de menteur. Celui qui ne croit pas que Dieu a ressuscité son Fils, il, ni plus ni moins, il traite Dieu de menteur. Alors que Dieu nous garde d'être dans l'incrédulité envers cette résurrection. Parce que c'est comme si on dit à Dieu, ben, tu n'as rien fait. Et puis, c'était confirmé aussi à la Pentecôte, dans Jean, chapitre 15. Il nous est dit, je vais vous lire ce passage, Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi. » Dès le commencement, vous aussi. Donc voilà, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a rendu un puissant témoignage de que Jésus est bel et bien celui qu'il a dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils éternel envoyé par son Père pour sauver l'humanité, sauver les hommes qui voudraient croire en lui. Et c'est l'œuvre magnifique du Saint-Esprit encore aujourd'hui dans nos cœurs, à travers ces milliers d'années qui passent, enfin ces centaines, ces siècles qui passent, et nous en sommes aujourd'hui, pour ceux qui croient, les heureux bénéficiaires. Ensuite, le septième témoignage, eh bien, c'est celui des apôtres, des disciples et des historiens. Jésus a ordonné à ses disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit pour être ses témoins. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'attendre. Il est venu. Il était glorifié à la droite de son Père. Et il donne le Saint-Esprit à ceux qui se repentent de leurs péchés, qui croient en son nom. Il nous fait ce cadeau énorme du sceau de son esprit. Alors ses disciples, en effet, ils ont attendu, et vous le savez, ils sont passés de l'état d'une grande crainte à l'état d'une grande assurance. pour leur témoignage. Et on ne reconnaît plus Pierre et Jean en particulier quand ils parlent aux religieux juifs de Jérusalem qui venaient de crucifier leur maître. Eh bien, ce n'est plus les mêmes hommes. Ils ne prennent plus la fuite, enfin, en tout cas pour Pierre. Et c'est fini. Et dans Actes chapitre 4, au verset 8, on voit vraiment des hommes transformés. Et il est rempli d'Esprit Saint. Et bien sûr, c'est avec l'aide de l'Esprit Saint qu'il peut le faire. Et il dit après, il annonce l'Évangile. Et il dit, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et ensuite, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple, donc des gens sans instruction, c'est même dit. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire aussi ça de nous? Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Certains sont sans instruction, d'autres ont beaucoup d'instruction. Peu importe finalement, mais l'essentiel, c'est d'être dans l'assurance, dans la conscience que Jésus-Christ est vivant et qu'il est vraiment l'envoyé du Père qui a changé nos existences. Et on voit plus loin, après, il y a une réunion de prière, parce qu'ils ont des craintes, ils sont menacés, ils sont même battus. Il y a une réunion de prière et ils se réunissent tous pour demander d'avoir de l'assurance pour annoncer librement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette réunion de prière, elle est dans Actes chapitre 4, à la fin des Actes chapitre 4, vous pourrez la relire à la maison. Et c'est à la fin de cette réunion qu'il est dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a quelque chose qui a bougé, comme pour leur dire, le Seigneur leur dire, je suis avec vous, ce n'est plus vous qui devez trembler, c'est la terre qui tremble. Et est-ce qu'ils ont dit, ben d'accord, les pharisiens leur ont dit, arrêtez de parler? Non. Au contraire, ils ont dit, jugez plutôt, est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou aux hommes? Ben, il faut obéir d'abord à Dieu. Alors c'est vrai qu'ils prenaient des gros risques en disant ça. Ils n'ont pas fait de compromis. Et il nous est dit dans acte que je retrouve, 40 à 42, acte 5, 40 à 42, ils se sont fait battre de verges et on leur a défendu de parler au nom de Jésus, mais ils n'ont pas voulu faire de compromis, donc, comme je le disais. Et ils se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir ces outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Alors, une persévérance quotidienne. J'aime bien ce chaque jour. Et ça m'interpelle aussi pour moi. Chaque jour, j'ai l'occasion. Dieu me fait rencontrer des personnes. Certaines, je ne les reverrai jamais. Est-ce que je saisis l'occasion? Pas toujours. Que Dieu nous aide. Et il y a beaucoup de cas encore donc, dans l'histoire, de témoins. Et avant d'arriver à ces témoins, il y a un historien de l'époque bien connu, Flavius Joseph, qui est né à Jérusalem en 37. Donc c'était un juif qui a écrit. Et il a écrit « Vers cette époque surgit Jésus, homme sage, s'il faut vraiment l'appeler homme, car il faisait des choses miraculeuses, il était le Christ. » Voilà le témoignage d'un historien qui n'était pas forcément chrétien. Enfin, Dieu connaît son cœur, hein, mais on n'a pas su qu'il y ait eu une conversion, forcément. Mais Flavius Joseph a écrit dans ses livres, donc la venue de Jésus. On le trouve, ces citations, dans le Messie de la Bible. C'est un excellent livre que je vous recommande. Et maintenant, venons-en à nous pour terminer. Et nous, notre témoignage. La lettre aux Hébreux nous parle de cette grande nuée de témoins qui nous ont précédés, qui nous ont transmis la bonne nouvelle. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et on est tous redevables si on réfléchit à quelqu'un. sinon plusieurs personnes qui nous ont transmis ce qu'ils ont reçu, la bonne nouvelle. Et pour nous, eh bien, en Europe, ça a commencé avec l'apôtre Paul, qui est venu aussi en Grèce, en Macédoine. Je fais un saut encore un peu plus, beaucoup dans l'histoire. Pierre Valdo, en France, parmi les pauvres de Lyon, qui a traduit le premier évangile en français. Savonarole, en Italie, qui a donné sa vie sur le bûcher à cause de son témoignage courageux. Wycliffe, en Grande-Bretagne. Martin Luther, en Allemagne. Farel et Calvin, en Suisse. Et puis, plus près de nous, en Dauphiné, l'apôtre des Alpes, hein, vous voyez de qui je veux parler, pour certains qui connaissent l'histoire, Félix Neff, cet infatigable évangéliste qui a été enflammé lors d'un réveil spirituel à Genève et qui est parti évangéliser tous ces villages des montagnes que vous avez encore dans l'Oisin, dont il y a des témoignages encore en Oisin. Ça vaut la peine de lire son histoire. Et donc, quelle puissance de témoignage qui a été apportée jusque vers nous pour nous conduire au salut. Et donc aujourd'hui, eh bien, Jésus-Christ il continue de chercher des témoins et d'envoyer des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants comme témoins dans ce monde. Donc nous sommes son corps, frères et sœurs. Nous sommes ses mains pour agir, ses pieds pour aller, son cœur pour aimer, sa bouche pour parler. Donc ce témoignage à notre Seigneur Jésus, c'est le plus grand trésor à faire valoir. Quand on sera au ciel, ça sera fini. On y sera. Ils y seront, ceux qui devaient y être. Mais sur la terre, on a des occasions que Dieu place devant nous. À nous de les saisir. Pas très loin de nous, on a tous été, toute la France et au-delà, a été peinée d'apprendre, c'est vrai, ce massacre qu'il y a eu de deux jeunes à Échirolles. Et puis c'est vrai qu'on est les premiers, moi le premier à dire, mais c'est des bandits, c'est des sauvages, enfin tout ce qu'on veut, hein, faire une chose pareille. Et puis après on peut s'interroger, moi-même je me pose cette question, est-ce que ces jeunes qui ont commis une telle violence, est-ce qu'ils ont été confrontés une fois au message de l'Évangile? Pas sûr du tout, même quand on est en France dans un pays chrétien. Pas sûr du tout qu'ils aient entendu une fois l'Évangile. Il y a des jeunes dans ces cités, ils ont entendu un message, surtout, la plupart, le message de l'islam. Mais ils n'ont pas entendu forcément la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ces jeunes, on peut les rencontrer des fois, comme ça, dans la rue, à un moment favorable, et leur donner peut-être un simple tract ou une invitation à venir. Il y a des gens qui témoignent, il y a des frères et sœurs d'autres églises aussi qui sont sur le terrain là-bas, n'oublions pas de prier pour eux. Mais il y a une grande ignorance sur le Seigneur Jésus. Et nous, eh bien, nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous lever. Et c'est, je vais lire un dernier texte dans l'évangile de Jean, la lettre de première lettre de Jean, chapitre 1, où Jean dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, première chose, nous vous annonçons la vie éternelle, deuxième chose, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. » Donc, la parole de la vie a été manifestée, on ne peut pas rester à ne rien faire. Nous rendons témoignage. Donc, par notre vie, on est appelé à rendre témoignage. Une vie transformée, une conduite différente, la pratique aussi de la justice dans notre vie quotidienne, ce qui n'est pas forcément facile dans certaines situations professionnelles, par exemple, dans lesquelles nous pouvons être confrontés. Une vie transformée qui se dit aussi par des paroles, parce qu'il n'y a pas que la vie, il y a aussi les paroles. Il y a l'annonce du message de la bonne nouvelle. ce livre que je ne saurais trop vous recommander, L'engagement du Cap, qui était fait par il y avait plusieurs milliers de responsables chrétiens qui se sont retrouvés en Afrique du Sud en 2010 à Cape Town. Et j'aime beaucoup des déclarations qui sont faites dans ce livre. Nous aimons l'évangile de Dieu. Disciples de Jésus, nous sommes un peuple de l'évangile. Le cœur de notre identité est notre passion pour la bonne nouvelle biblique de l'œuvre salvatrice de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes unis par notre expérience de la grâce de Dieu dans l'Évangile et par notre motivation à faire connaître l'Évangile de la grâce jusqu'aux extrémités de la terre par tous les moyens possibles. Et nous, de Grenoble, on peut atteindre les extrémités de la terre puisque le Seigneur nous envoie des étudiants qui viennent de ces extrémités de la terre à qui on peut rendre témoignage sans forcément partir et faire sa valise. C'est plus confortable même, hein, vous l'avouerez. Donc, l'Évangile, il y a une définition de l'Évangile. Nous aimons l'Évangile, nous aimons la bonne nouvelle dans un monde de mauvaises nouvelles. Donc, nous avons un message dont nous n'avons pas à avoir honte. C'est un message extraordinaire. Donc, pareil, maintenant ce message, il est écrit. Nous l'écrivons, a dit Jean. Dieu ne nous a pas demandé d'écrire la Bible. Mais nous pouvons transmettre ce qui est écrit en ayant à notre portée un évangile. On a de merveilleux petits évangiles où c'est marqué l'espoir. Eh bien, c'est super de donner ça à quelqu'un qui est peut-être découragé. Nous avons des tracts avec l'adresse de notre église qui peuvent mettre les gens sur la piste. Nous avons aussi des nouveaux calendriers qui arrivent. C'est mieux que le Beaujolais nouveau. Hein? Chaque année, 2013, il y a des calendriers. Et nous allons partir en Lozère aussi pour porter ces calendriers. Nous allons aussi en novembre avec une équipe de l'Église. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par cette distribution, qu'ils se fassent connaître à l'un de nous. Et nous allons partir avec différents équipiers pour porter cette bonne nouvelle. Il y a différents moyens. Il n'y a pas que les calendriers, bien entendu. Même si je reste un fervent du calendrier. Claire m'encourage. Et... Donc, c'est vrai que cherchons, utilisons les outils que Dieu nous a donnés. Et vous avez aussi eu une réunion ici, il n'y a pas longtemps, de partage. Vous étiez une vingtaine à réfléchir. Et je crois que cette réflexion ne doit pas se limiter à ces 20 personnes, mais à chacun de nous, se dire, qu'est-ce que je peux faire ? Seul, bien sûr, mais aussi communautairement, pour être témoin du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux faire ? Demandons ça à Dieu. Et ma conclusion est très courte. Il y a sept témoignages historiques à Jésus-Christ, et le huitième, il nous concerne, c'est-à-dire c'est à nous. C'est à nous de jouer, c'est à nous d'agir pour compléter ce chaînon manquant jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.